Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Campus Amiens, disponible sur le 87.7 FM et sur le DAB+. Bienvenue dans Info Club Sandwich, votre émission quotidienne d'actualité locale et associative. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jidru, un artiste de jazz à l'univers énigmatique. Il est venu nous présenter son dernier album intitulé Fantôme, qui sortira ce jour, le 3 mars 2023. Bonjour, comment ça va ?
Ça va très bien, merci de me recevoir.
Bah avec plaisir. Alors ton album Fantôme commence avec un titre assez entraînant, assez mystérieux, intitulé Bonfire. Qu'est-ce que tu as souhaité raconter à travers ce morceau et plus généralement à travers cet album ? Quelle est la démarche derrière cet album ?
Alors Fantôme, ça image, ça parle de ce qui peut nous lier et qu'on ne voit pas forcément, ce qui est invisible. En ce qui me concerne la musique, qui est mon vecteur de communication. Et j'imagine que plutôt que le voir comme un vide, on le voit comme un plein, et qu'on se dit que finalement cette musique, tout ce qui est invisible et qui nous lie entre artistes et public, est un plein, et c'est des petits fantômes, et chacun les interprète comme il veut. Après, je suis parti dans des histoires plus classiques de fantômes, avec des références à des films, à des histoires de marins, à des choses que les gens connaissent plus comme étant des fantômes qui font partie voilà, de l'univers de la poésie, du film, de la musique. Et Bonfire, c'est le feu de joie en anglais, et ça raconte comment on peut détruire tout par le feu en espérant reconstruire. C'est comment on peut rendre positif le disque essaye de rendre positif les fantômes, et là vraiment de se dire que quand on détruit quelque chose, en fait c'est pour construire quelque chose. D'où un peu cette énergie qu'on trouve dans le morceau.
Eh bien je propose à nos auditeurs de découvrir tout de suite ton univers avec le titre A Bonfire. Donc c'est le premier single que tu as sorti, il me semble, sur ce projet.
Exactement, ouais.
On s'écoute Bonfire de Jidru.
Thank you.
Ok, on écoutait A Bonfire de Jidru. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. Alors, lorsqu'on écoute ce morceau et aussi l'album, on entend qu'il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup d'émotions différentes. Il y a des émotions un peu plus positives, d'autres plus négatives, d'autres plus sombres, d'autres plus lumineuses. J'imagine que c'est le message que tu voulais faire passer aussi dans ton album, c'est que ces émotions, c'est à nous de les accepter, de leur donner leur propre interprétation, énergie finalement.
Exactement. Je pense que l'album, il a un sens de bout en bout. C'est comme une espèce de très grande histoire. On suit l'énergie de l'histoire qu'on veut raconter. Donc là, Bonfire, donc on brûle tout, on détruit tout dans un feu de joie. Donc on suit, on s'installe, on jette tout dans le feu, ça explose. Et puis, hop, on est apaisé, on reconstruit quelque chose. Avant d'enregistrer, on s'est toujours raconté la petite histoire qu'on allait raconter en musique, et puis après parfois tout est enregistré en live, hein. On fait 3-4 et on enregistre, donc on suit aussi l'énergie qui se crée, là par exemple les musiciens suivent le solo, et puis on essaye de raconter quelque chose.
Et donc ça c'est assez intéressant, c'était essentiel pour toi d'enregistrer ça en live, d'avoir ce côté très organique?
Bah, on a enregistré donc au studio du Label Bleu à Amiens, et c'est un studio qui est merveilleux, qui sonne très bien, et qui a la taille qui nous permet d'enregistrer et de se séparer un peu les uns des autres pour que ça ne repiste pas dans les micros. Oui, c'était essentiel. C'est une musique de toute façon qu'on joue en live, qui est basée sur la communication, l'interaction, l'improvisation. Donc ouais, c'était essentiel et ça l'a fait.
Alors justement, tu nous parles du Label Bleu, on peut peut-être enchaîner directement sur cette question-là. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le Label Bleu? Qu'est-ce qu'il représente pour le jazz à Amiens, ce label?
Ah bah c'est un label qui a été créé dans les années 80, qui s'est énormément développé à cette époque et qui a accueilli les plus grands noms du jazz. Je pense qu'à une époque, c'était le plus gros label français de jazz.
Est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms, qu'on puisse se représenter un petit peu l'importance du label à l'époque?
Henri Texier, Michel Portal, Padovani, enfin un tas de... Et puis après, il est arrivé une autre génération avec Julien Louraud, Magic Malik. Ils ont un énorme catalogue et un studio qui est au-delà de ce catalogue, un studio qui est à la Maison de la Culture à Amiens, et donc dont on peut profiter, et dont nous on a profité pour enregistrer, qui est un outil incroyable, une console incroyable, un studio d'une taille phénoménale, enfin, c'est un outil merveilleux, quoi. Un des plus gros, je pense, en France.
Oui, donc en fait, c'est un outil super pratique et super performant à Amiens, et c'est pour ça aussi que j'imagine que tu allais là-bas.
Bah c'est oui. Après c'est ça s'est fait par la musique, parce que moi l'équipe que j'ai connue du Label Bleu, c'était l'ancienne équipe, là c'est une nouvelle équipe depuis quelques années. C'est un label qui s'est un peu mis en stand-by quelques années, qui reprend forme là, qui travaille avec Édouard Perrault, avec Roberto Negro, avec Thomas de Pourquerie, qui a sorti de nouveaux artistes, qui refait des disques, qui fait des vinyles, des CD, et qui reprend une dynamique. Et c'est eux qui, par rapport à pourquoi moi, c'est eux qui ont choisi, en fonction de la musique que j'ai présentée, on leur a fait écouter de la musique, ils ont dit allez, c'est parti, c'est génial, faisons un disque. Il y a un premier disque qui s'appelle Western qui est sorti chez eux, et là c'est le deuxième, Fantôme.
Très bien, donc ça c'est une question, on va dire, sur le label. Il y a aussi trois autres musiciens, il me semble, qui t'accompagnent sur cet album. Est-ce que tu pourrais nous les présenter et éventuellement nous expliquer à quel moment ils sont intervenus sur l'album? Est-ce que tu as écrit seul et ils sont venus après pour interpréter ce que tu avais écrit, ou alors c'est une écriture qui s'est faite en commun?
Alors c'est une écriture, la phase d'écriture elle s'est faite avec Sandra Nkake. Donc qui est chanteuse et qui est accompagnée qui fait aussi de la senza, des percus, qui a un petit looper, c'est-à-dire quelque chose qui lui permet de faire des boucles, des très longues boucles de voix sur le disque. On a écrit les textes, les chansons, on a tout maquetté, sachant que les musiciens, je jouais déjà avec eux pour le précédent disque, donc je connaissais le jeu, leur capacité à interpréter un univers, donc c'est écrit en fonction de eux. Ensuite, on s'est vus et je leur ai fait écouter la musique. Il y a des choses que j'avais écrites, des choses que j'avais enregistrées. Et après, on a enregistré ce disque directement. Quoi. Sans 3-4, c'est parti. On a fait des versions, on a choisi. Par exemple, Bonfire, ce qu'on vient d'écouter, c'est la balance, ce qu'on appelle la balance. C'est-à-dire, on s'est dit, OK, c'est bon, on essaye. Et on était tellement bien dans cette énergie qu'on s'est dit, bah, on garde cette version-là. Et c'est maintenant le morceau qui ouvre le disque.
Alors, ce que je trouve assez intéressant, justement, avec l'apport de ces musiciens, c'est que, par exemple, la voix de Sandra, elle va être utilisée comme une voix, comme du chant, mais aussi, parfois, on a l'impression que c'est une sorte de texture presque comme, on va dire, un synthétiseur, finalement, mais tout est analogique, en fait, c'est juste de la voix. Pareil pour la basse, c'est pas vraiment une basse, c'est un clavier qui joue un son très rond, très chaud de basse. Donc c'est ce que tu as voulu, j'imagine, utiliser vraiment les sons analogiques pour les transformer en des textures différentes et garder ce côté vraiment organique.
Exactement, en fait je pense que c'est compliqué de dire à quelle famille appartient la musique qu'on fait. C'est pas vraiment du jazz, c'est pas vraiment
c'est très fusion, c'est vrai,
c'est
mine de rien.
Ouais. Et par contre, moi, ce dont j'étais sûr, c'est que avec cet instrumentarium-là, en choisissant ces instruments-là, j'avais l'impression qu'on pouvait travailler sur l'énergie. La basse, c'est donc une basse clavier, une basse au Moog, et puis il fait la basse à la main gauche et il joue au Rhodes à la main droite, donc au Rhodes qui est un clavier. Et je pensais que, par exemple, le côté naturel de la batterie avec le côté plus synthétique de la basse, comme le côté naturel de la flûte avec en opposition le Rhodes qui passe dans les amplis, tout ça allait créer des couleurs, des énergies qui étaient rassemblées, allaient former ce que j'aime, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois très naturel, mais en même temps qui fait des clins d'œil au trip-hop, à la musique électronique, à la musique toujours un peu axée sur la trance, sur la répétition, un côté tribal parfois. Avec l'utilisation de percus, on a beaucoup utilisé la batterie dans son ensemble, pas uniquement pour faire des rythmes, mais des fois un peu pour créer des couleurs, des ambiances, des percus, quoi.
Alors justement, il y a un instrument dont on n'a pas encore parlé, qui est pourtant primordial sur le projet, c'est la flûte. Et je voulais te demander, depuis combien de temps toi tu pratiques la flûte, et qu'est-ce qui va te plaire finalement dans cet instrument, selon toi? Quelle émotion ça va te permettre de véhiculer? Parce que je sais aussi que, par exemple, tu as fait du saxophone. Typiquement, pourquoi c'est de la flûte et pas du saxophone sur cet album?
Alors j'ai arrêté le saxophone. J'ai fait du saxophone, je commence ici, là, au conservatoire à Amiens. Et j'en faisais comme ça. Après, j'ai fait les groupes au lycée, on s'amusait. Et un jour, à la raiderie d'Amiens, j'ai acheté une flûte. Et là, ça a été la rencontre merveilleuse. J'en ai fait toute la journée, tout le temps. Alors que le saxophone, il y avait quelque chose qui était... que je sentais, j'avais moins de vibrations, quoi. Et quand j'ai rencontré la flûte, ça a tout changé. J'en ai fait tout seul, je me suis enfermé. Moi, je joue la flûte traversière, mais sur le disque, je joue aussi d'autres flûtes. Je joue une flûte, des flûtes que, en fait, j'ai rapportées de voyage, parce que où que vous alliez, il y a toujours une petite flûte sur tous les marchés. Il y a toujours une petite flûte que vous pouvez acheter. J'en ai acheté plein partout en France et pas que. Et sur le disque, il y a une flûte qui est d'Afrique de l'Ouest, il y a une flûte de Bangkok, il y a une flûte brésilienne. Et ce que j'aime dans cet instrument, c'est son côté simple, direct, qui est très proche de la voix. J'aime que derrière un instrument, on sente qu'il y ait quelqu'un qui le joue, une personnalité qui peut déranger, qui peut titiller, et puis sa capacité à raconter des histoires. Pour moi, la flûte, c'est l'instrument du berger qui est tout seul, qui parle aux oiseaux et qui peut emmener le troupeau. Il y a vraiment ce côté simple que moi j'adore de cet instrument.
Alors ça, c'est un aspect qui est super intéressant et que j'ai ressenti en écoutant l'album. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une narration très forte sur l'album. La flûte raconte une histoire. C'est le cas d'à peu près tous les albums. Tous les albums racontent une histoire, mais là, la narration est très prononcée. Cette narration, elle est aussi accompagnée de visuels assez forts sur les clips, etc. Et je voulais te demander, est-ce que tu as déjà fait de la musique pour le cinéma? Est-ce que tu aimerais en faire finalement?
Alors, j'en ai déjà fait. Ouais, j'ai déjà participé à des musiques de films. Et si tout se passe bien, je devrais en faire une pour une réalisatrice qui s'appelle Sofia Norlin, qui est une Suédoise, qui normalement, c'est très compliqué de monter un film, c'est très long. Donc, on n'est jamais sûr. Mais normalement, on devrait se lancer dans une musique de film. J'en ai déjà fait. Mais moi, en tout cas, dans la musique que j'aborde, il y a forcément toujours une référence à une histoire et à la volonté de communiquer avec les gens et qui sentent qu'il y a une histoire. Après, Parfois, c'est eux qui se font l'histoire, mais j'ai envie qu'il y ait ça.
Alors justement, c'est assez intéressant, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. C'est vrai que bon, il y a la musique, il y a l'histoire qui est racontée, je le dis, il y a les visuels très forts dans le clip. Je pense au clip de Bonfire où il y a aussi des chorégraphies. Je pense aussi à la live session que tu as tournée à la Macu où en fait on a, bah, il y a beaucoup de références finalement cinématographiques ou de clips. On a l'impression de voir presque Dave Brubeck à l'époque, etc. Et donc en fait il y a beaucoup de choses. Il y a de la danse, il y a du chant, il y a de la musique, il y a du cinéma. Est-ce que c'est important pour toi d'aller au-delà de la musique en fait dans ton projet artistique?
Ouais, bien sûr. Enfin, moi, j'associe complètement. J'ai grandi en écoutant de la musique parce que je l'entendais dans les films. Parce que quand on faisait du basket, il y avait un ghetto blaster sur le côté du terrain et que la musique appartenait à notre vie. Le sport, la musique, les vêtements, les pochettes, les photos, la peinture. Pour moi, tout ça, c'est totalement lié. Ça raconte des histoires qui peuvent se répondre. Chaque discipline a ses spécificités, mais pour moi, c'est vraiment un tout. Je pense que moi, je suis d'une génération où le côté urbain a vraiment explosé, le graffiti, les fanzines, la radio, tout ça, c'est les médias pour faire passer des idées, enfin, on est là, on est créateur, donc on est là pour interroger, pour déranger, pour que les choses changent, pour que ça gratte dans le dos de ceux qui nous écoutent, qui se disent qu'on peut faire différemment, qu'on est original, qu'on existe.
Et peut-être un autre aspect aussi de cet album, finalement, c'est une forme de fidélité dans le sens où tu reprends la flûte, tu vas la travailler, ça fait des années que tu travailles avec Sandra Nkake, tu travailles aussi avec des musiciens avec qui tu as collaboré par le passé. J'imagine que c'était important aussi pour toi d'avoir un peu, je ne sais pas si c'est cette zone de confort, mais on va dire ces partenaires de travail que tu connais et qui te permettent d'aller atteindre des émotions, d'aller plus loin finalement.
Oui, c'est sûr que travailler dans la longueur avec des gens, ça permet de creuser un matériau musical et de se dire voilà, on y va à fond. C'est on a un quartet de base et puis il y a des cordes et puis il y a Mike Ladd, rappeur qui est invité. Tous sont très impliqués dans la musique. Mathieu Penaud qui est à la batterie et aussi celui qui a mixé le disque. Donc il y a vraiment un rapport dans cette histoire où on se dit, pour le coup, un peu comme une pièce de théâtre, un film ou vraiment un groupe, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on y va tous, ok, c'est ça l'histoire, on part tous dedans. Et c'est sûr que de travailler dans la longueur, par exemple avec Sandra, on est reparti avec la force qu'on avait du disque précédent, on a découvert des choses qu'on pouvait faire, il y a des thèmes qui sont chantés, flûte voix, il y a vraiment... Ou des parties qu'on chante à deux, il y a vraiment un mariage qui est né de cette collaboration et de la longueur de cette collaboration. On a découvert des choses, on en découvre toujours, mais on a découvert des choses qu'on peut utiliser et ça, c'est génial.
Alors, on va rentrer dans les questions un petit peu plus pratiques, on va dire, autour de ton album. Donc, bon, on est toujours très bien renseignés à Radio Campus, on a des très bons espions. Et on m'a rapporté que voilà, il fallait voir Jidru en live. À quel moment on va pouvoir te voir en live? Voilà, est-ce que tu as des petites dates de prévues déjà? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver à Amiens? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
Alors, la sortie du disque, elle se fait au Bal Blomé à Paris, le 20 avril. Et on n'a pas encore la date, mais en ce qui concerne la date à Amiens, ça sera sur la saison prochaine à la Maison de la Culture.
Ok, super. Alors, concernant la sortie de l'album, elle aura lieu aujourd'hui, donc le vendredi 3 mars. Donc c'est disponible sur les plateformes de streaming. Concernant le physique, est-ce qu'il y aura du CD, est-ce qu'il y aura du vinyle et où est-ce qu'on va pouvoir se le procurer finalement?
Alors il y a du CD, il y a du vinyle, chez tous les bons disquaires, on en a un excellent qui s'appelle La Maladisque à Amiens. Les disques du Label Bleu sont disponibles aussi à la Maison de la Culture quand ils font l'accueil et durant les spectacles.
Alors, au-delà, alors, lorsque l'on ne te voit pas en live, est-ce qu'il y a un support d'écoute sur lequel tu nous conseillerais d'écouter ton projet particulièrement? Un petit coup de cœur peut-être entre le streaming, le CD, le vinyle pour toi ou peu importe?
En fait, il y a des raisons qui font que la musique n'est pas traitée pareil dans le numérique, dans le vinyle et dans le CD. Et le vinyle est quand même plus proche de ce que nous, on sort en studio.
Est-ce que vous avez travaillé sur du son analogique finalement?
Ouais, on a travaillé sur du son analogique et en fait, pour des raisons physiques un peu compliquées, tu mets pas autant de puissance dans le son du vinyle. Tu fais un mastering, donc c'est la dernière étape de travail de quand tu produis de la musique, qui est plus délicat dans le vinyle, qui a plus de dynamique, qui est moins compressé, comme on dit techniquement.
Et est-ce que aussi c'est un souhait dans le sens où ça correspond complètement au côté organique aussi du projet finalement, ce côté analogique, ce côté vinyle?
Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Nous, en fait, il y a une énorme console à la Maison de la Culture, donc il y a que à la finale que ça arrive dans l'ordinateur. Sinon, tout est fait en fait à l'ancienne. On est en direct, on enregistre, on mixe, on fait une balance. Donc c'est clair que ça correspond à cette philosophie-là. Maintenant, tout le monde n'a pas une platine vinyle.
Bien sûr, évidemment.
Et kiffez-vous en l'écoutant en numérique, il n'y a aucun souci. Hein.
Super, merci. Alors est-ce que voilà, tu aurais peut-être une découverte, quelque chose, un film, un artiste, un peintre, un musicien à nous faire découvrir avant de terminer cette émission?
Un peintre ou un musicien ou un artiste? Il y a de la même génération que moi et dans le local qui est en train de faire un merveilleux projet, il y a Vadim Vernet que je vous conseille d'aller écouter. J'ai envie de parler de lui parce que voilà, on est dans cette énergie, dans Radio Campus, je trouve que par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a un parcours, une fidélité, une image et quelque chose qu'il a creusé et qu'il a trouvé et que je trouve merveilleux dans ce que j'ai écouté récemment de Vadim.
Chouette, et ben je renvoie nos auditeurs à aller écouter Vadim Vernet. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, c'est très gentil de ta part.
Bah, merci à vous.
Donc c'est la fin d'Info Club Sandwich. Pour rappel, l'album Fantôme de Gidru sort ce vendredi 3 mars 2023. Il sera disponible en physique chez tous les bons disqueurs, aussi sur les plateformes de streaming. Je vous propose de terminer cette émission avec le titre A Sign of the Devil de Gidru, dont la session live est disponible sur sa chaîne YouTube. Au revoir.